87.9.
Bienvenue sur Inter, bonjour à tous, nous sommes le mercredi 4 mai. Julie Pietri, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité, toujours pas d'accord entre socialistes et insoumis ce matin. Après un oui des communistes hier, ça bloque toujours sur les circonscriptions, sur le rapport à l'Europe aussi. Mais les négociateurs restent optimistes. On va en parler à 8h20 avec le secrétaire national du Parti communiste, Fabien Roussel. Vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000. Le standard d'Inter est ouvert. Les autres titres, Julie.
Les législatives encore et reconquête qui déchante faute d'alliance avec le Rassemblement National, le parti d'Éric Zemmour, risque le zéro député à l'Assemblée en juin. Les droits des femmes en Amérique sont attaqués. Discours puissant hier de Kamala Harris, vice-présidente des États-Unis, alors que le droit à l'avortement pourrait être annulé. Vous l'entendrez. Que se passe-t-il en Russie depuis une dizaine de jours? Des accidents, on va les appeler comme ça, se multiplient sur des sites militaires. Les autorités russes parlent de sabotage. Dans ce journal, nous serons aussi au procès des attentats du 13 novembre. Et puis nous vous parlerons de Passagers de la nuit, un film qui sort aujourd'hui et qui parle de France Inter.
Et les invités d'Inter, l'invité de 7h50, Léa.
Oui, c'est une ex-championne de boxe qui écrit aujourd'hui des livres, dont Au nom de tous les tiens, une lettre à sa fille. Elle lui explique d'où elle vient et ce que c'est d'être noire aujourd'hui en France. Un livre puissant qui bouscule. Aya Sissoko sera avec nous à 7h50.
A tout à l'heure, Léa.
France Inter.
Une gauche unie pour les législatives. L'accord final était d'abord espéré pour le 1er mai, fête du travail, mais ça n'a pas marché. Conclure hier, jour anniversaire de la victoire du Front Populaire, aurait eu du panache glisser des membres de la France Insoumise. Mais finalement, non, enfin pas totalement. Si les communistes rejoignent l'Alliance Insoumis-Écologiste, les socialistes bloquent toujours ce matin. Julie Drouin.
À ce point-là des négociations, cela discute surtout des circonscriptions. Les communistes en ont obtenu 50, les Verts 100. Alors, que reste-t-il pour les socialistes? La France Insoumise rappelle que leur score à la présidentielle ne leur permet pas d'obtenir ce qu'ils réclament, soit une centaine de circonscriptions. Pour autant, LFI a fait des concessions, explique la députée européenne LFI, Manon Aubry.
Globalement, leurs demandes vont être largement satisfaites dans la mesure où le nombre de circonscriptions attribuées sera bien supérieur à la proportionnelle et aux résultats qu'ils ont fait à l'élection présidentielle. On tient compte de leur implantation locale, départementale, dans les régions, donc on va y arriver.
Quant au programme, des points d'accord semblent avoir été trouvés, selon le patron des Verts, Julien Bayou, qui a rejoint les discussions dans la soirée.
Pour nous, à ce stade, vraiment, il s'agit à la France Insoumise et au Parti Socialiste d'arriver à trouver le réglage qui convient. Chaque ancrage est important, chaque circonscription est regardée avec soin, évidemment. Mais pour l'essentiel, le principe de la coalition semble acté sur le projet. Ce type de convergence est inédite. Et donc évidemment, nous, on attend, on espère un accord favorable le plus tôt possible.
Mais pour l'heure, rien n'a encore été officialisé entre les socialistes et la nouvelle Union populaire écologique et sociale.
Hier, pourtant, les Insoumis avaient prévenu. Ce mardi était censé être la date limite pour les discussions, pour pouvoir entrer rapidement en campagne. Manuel Bompard, négociateur LFI, allant même jusqu'à dire que les négociations ne reprendraient pas aujourd'hui. Chez Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, 550 candidats sont officiellement investis pour les législatives. Mais puisqu'il n'y a pas d'accord avec le Rassemblement National, aucune circonscription ne semble gagnable. La plupart des cadres du parti renoncent. L'exemple le plus frappant, c'est peut-être Marion Maréchal, la nièce de Marine Le Pen, qui a clairement raté son pari en rejoignant Éric Zemmour et Élodie Forêt.
Sur les plateaux télé le 10 avril, Marion Maréchal tente de garder la tête haute.
Je n'ai aucun regret dans cette campagne. J'ai fait un choix de conviction et de cohérence qui me semble en politique être la première des motivations saines.
Aucun regret, assure la petite fille de Jean-Marie Le Pen, qui en quelques semaines aura pourtant gâché un retour en politique tant fantasmé. Une arrivée trop tardive dans la campagne au moment où les sondages dévissent. Un premier discours à Toulon diffusé nulle part. Le temps d'antenne des chaînes d'information étant épuisé. Jusqu'au premier tour, Marion Maréchal tente malgré tout de garder la main. « Je suis alliée, mais pas ralliée », martèle l'ex-députée qui veut créer un micro-parti et à négocier à minima en vue des législatives 50 investitures pour ses proches. Elle-même, bien qu'enceinte, envisage de se présenter. Mais ses ambitions se fracassent sur le score d'Éric Zemmour, 7%, et un nombre de circonscriptions gagnables se réduisant à peau de chagrin. Marion Maréchal change alors son fusil d'épaule. Ni micro-parti, ni candidature, sauf énorme surprise. Moïse. Acceptant finalement de prendre sa carte à Reconquête et d'en devenir vice-présidente au même rang qu'un Nicolas Bay. Un renoncement qui suscite la désillusion de ses proches. Elle n'a décidément ni l'envie ni la niaque. La plupart se sont déjà éloignés de l'aventure.
Et crainte de faire campagne, d'investir des milliers d'euros pour au final réaliser peut-être moins de 5% des voix et ne pas obtenir de remboursement des frais engagés. Chez les Républicains, cette fois, des membres actifs de la campagne de Valérie Pécresse renoncent également. Pas de chiffre officiel, une vingtaine de LR sont évoqués, peut-être plus.
Il est 7h05, l'Oklahoma veut être, Julie, le territoire le plus pro-vie des États-Unis.
Le gouverneur de cet État du Midwest, conservateur, religieux, a signé un projet de loi hier interdisant l'avortement après 6 semaines de grossesse, ce qui veut dire que la quasi-totalité des IVG deviendrait illégale, puisqu'à 6 semaines, beaucoup de femmes ne savent même pas encore qu'elles sont enceintes. Une annonce alors que la Cour suprême des États-Unis a confirmé hier qu'elle travaille bien sur une annulation du droit à l'avortement. Elle veut revenir sur l'arrêt Roe contre Wade, arrêt de 1973 qui a fait jurisprudence dans le pays. Colère froide hier de la vice-présidente américaine Kamala Harris à Washington.
Women's rights in America are under attack.
Les droits des femmes en Amérique sont attaqués. L'arrêt Roe contre Wade a protégé le droit des femmes. Leur droit de prendre des décisions concernant leur propre corps depuis près d'un demi-siècle. Si la Cour suprême renverse Roe, ce sera une attaque directe contre la liberté, contre les droits fondamentaux d'autodétermination auxquels tous les Américains ont droit.
Extrait du discours de Kamala Harris que Sébastien Paour aux États-Unis a écouté pour nous. En Ukraine, pour la première fois, ce sont les chars et l'infanterie russe qui ont lancé l'assaut hier contre l'aciérie Azovstal de Mariupol, dernière poche de résistance de la ville qui était pilonnée déjà depuis des semaines. Il reste des civils cachés dans ces immenses galeries souterraines. Hier, l'ONU dit avoir réussi à évacuer une centaine de personnes. À Lviv, ce sont 3 centrales électriques qui ont été détruites hier par des missiles russes. Une partie de cette grande ville de l'ouest de l'Ukraine est désormais privée d'électricité. Nous sommes victimes de sabotage. Les autorités russes ne vont pas jusqu'à dire que c'est sans doute l'Ukraine qui agit en coulisses. Mais depuis une dizaine de jours, explosions, catastrophes industrielles et incendies inexpliqués se multiplient sur des sites militaires russes. En Russie, presque un par jour la semaine dernière. Éric Biegala.
Certains de ces incendies ou explosions ont été causés par des attaques militaires en bonne et due forme. Ainsi, l'incendie d'un dépôt de carburant à Belgorod, à 35 km de la frontière avec l'Ukraine, début avril, résultait bien du tir de 2 hélicoptères d'attaque. Nombre d'explosions ou d'incendies se concentrent d'ailleurs dans cette région de Belgorod, sorte de nœud logistique de la guerre russe vers le Donbass. Dimanche, c'est un pont de chemin de fer qui a été détruit un peu plus au nord. Mercredi dernier, c'était un dépôt de munitions qui flambait en pleine nuit. Et 2 jours plus tôt, c'était la base logistique des carburants de l'armée russe à Bryansk qui partait en fumée. Et ce n'est pas limité à la zone de la frontière. Ce lundi, c'était l'important complexe de poudre et explosifs de Perm, à plus de 1000 km à l'est de Moscou, qui était ravagé par une explosion. Les accidents industriels et autres incendies ne sont pas rares en Russie, mais quand on parle des centres de recrutement de l'armée, 5 ont été incendiés, ou des véhicules des services de renseignement russes, pareillement réduits en cendres dans le centre de Moscou, il est tout de même difficile de parler d'accident.
Explication en longueur sur franceinter.fr. Aujourd'hui, la Commission européenne doit présenter ses nouvelles sanctions contre la Russie.
Il est 7h09 au procès des attentats du 13 novembre 2015. Le témoignage d'un ex-otage de Daesh en Syrie.
Nicolas Hénin, ex-journaliste, a raconté la cruauté de ses geôliers, les terroristes de l'État islamique, durant ses 10 mois de captivité entre 2013 et 2014. Il était alors détenu avec 23 autres personnes. Charlotte Piret.
Pendant les 10 mois de leur captivité, entassés, pas assez nourris, menottés de par deux de longues semaines durant, les otages ont eu pour geôliers ceux qui ensuite ont préparé les attentats du 13 novembre.
Nous, les otages, nous avions eu une vision de l'intérieur, presque intime, de l'organisation de cette cellule.
Alors, Nicolas Hénin a livré à la barre ses souvenirs d'Oussama Attar, par exemple, commanditaire du 13 novembre.
J'ai pu interagir avec Oussama Attar. J'ai raconté en particulier 2 longues nuits en voiture lors d'un transfert à travers la Syrie. 2 nuits au cours de laquelle j'étais à l'intérieur d'une voiture conduite par Oussama Attar. J'ai raconté en particulier au tribunal comment Oussama Attar, fonçant de nuit dans un village, avait renversé et a priori tué un enfant. sans s'arrêter.
Une cruauté de cette cellule des otages qui deviendra celle des attentats, qui s'est aussi illustrée dans les violences dont Nicolas Hénin a été victime. Depuis de simples coups de poing et de pied jusqu'à des câbles, des chaînes, des matraques, a-t-il raconté à la barre, et même des séances de torture assez sophistiquées qui m'ont laissé handicapé pendant plusieurs mois.
La cruauté est consubstantielle au terrorisme. Quand vous êtes pris en otage par un groupe terroriste, vous ne pouvez qu'être maltraité.
Et l'ancien otage de conclure à la barre, leur objectif était de nous briser.
La cour d'assises va maintenant entendre pendant 10 jours les témoignages de près de 80 victimes qui n'ont pas été entendues pour le moment. La femme de 38 ans accusée d'avoir agressé un pompier lors de la manifestation du 1er mai à Paris doit être jugée aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris. Comparution immédiate. Couper des arbres, entretenir la forêt, est-ce un travail à risque? Oui, pour l'Office national des forêts qui a interrogé ses 230 employés d'Île-de-France, 88% disent avoir été soit témoins, soit victime de critiques, insultes ou agressions. Les promeneurs réagissant parfois très fort quand ils voient les gardes forestiers abattre, tronçonner un arbre. Nous participons à la vie des forêts, rappelle l'ONF.
Il est 7h10, France Inter au cœur d'un film qui sort en salle aujourd'hui.
L'intrigue de Passagers de la nuit, c'est le nom du nouveau film de Michael Herz, se déroule à France Inter. Nous sommes au début des années 80. Charlotte Gainsbourg interprète une standardiste d'une émission de Libre Antenne. L'animatrice de cette émission, c'est Emmanuel Béard, avec un gros clin d'œil évidemment au travail de Macha Béranger. C'est le coup de cœur ce matin d'Alexis Demeyer.
Elisabeth, récemment divorcée et mère de deux ados, habite dans l'une des tours du quartier de Beaugrenelle avec vue plongeante sur la maison de la radio. Celle qui passe ses nuits à écouter France Inter se décide un jour à proposer ses services et devient standardiste. Ce bel hommage aux médias radio est signé Michael Herz.
Quand j'étais enfant, je trouvais pas le sommeil. J'étais dans mon lit avec le Walkman et je passais d'une fréquence à l'autre, et j'avais accès tout à coup à des pans d'intimité, de vie, et puis j'imaginais que d'autres personnes les entendaient à d'autres endroits, ça faisait comme des constellations, comme ça, des liens entre les gens.
Ce soir, nous avons une nouvelle visiteuse. Quel est votre prénom ?
Talula. Les passagers de la nuit ne parlent pas seulement de radio. La famille, la cinéphilie, le temps qui passe sont aussi au cœur du projet de Michael Herz. Et puis le cinéaste signe ici un film d'époque. Décors, costumes, objets, mais aussi grains de l'image. Les années 80 sont habilement reconstituées.
C'était vraiment l'envie de me replonger dans le Paris de ces années 80, capturer des sensations, les couleurs, les sonorités que m'inspirait cette période. Il y a une phrase de Saint-Exupéry qui dit « On est de son enfance comme on est d'un pays », et là c'était vraiment l'impulsion première.
Le scénario très touchant offre aussi de belles scènes sur l'adolescence. Les trois jeunes comédiens chargés de donner la réplique à Charlotte Gainsbourg et Emmanuel Béard sont d'une justesse remarquable.
Alexis Demeyer, qui affrontera Liverpool en finale de la Ligue des Champions, le Real Madrid ou Manchester City? Les Madrilènes reçoivent les Anglais en demi ce soir à 21h. Le match aller avait été spectaculaire, 4-3 pour Manchester. Hier soir, Liverpool, mis en difficulté par Villarreal en première période, a fini par l'emporter 3-2.
Merci Julie Pietri. Le zoom dans 3 minutes, quand la Chine grossit.